Escapade
et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
De retour sur les ondes et de retour au festival numérique, les Cévennes connectées. Nous sommes dans la salle des fêtes de Ganges, une manifestation organisée par la communauté des communes des Cévennes gangeoises suménoises avec l'appui et avec même la co-organisation par le Centre social culturel de la Gantique et de très nombreux partenaires, puisque c'est donc un espèce de festival, de forum. On est là aujourd'hui sur une journée scolaire. Donc l'après-midi, les enfants viennent juste d'arriver. On a pris l'antenne en même temps quasiment qu'ils arrivaient. Des élèves, je pense, des classes de primaire de la Marianne. Si je suis à peu près bon encore dans mon jugement des âges des enfants. Il devrait y avoir aussi des collégiens de Louise Michel, des élèves de la présentation qui viennent donc profiter de toutes les activités proposées par différentes associations, organismes plus ou moins institutionnels qui sont venus pour parler du numérique dans toutes ses dimensions, que ce soit les enjeux de société, donc évidemment avec les dérives qu'on peut avoir, mais aussi les débouchés professionnels, le côté ludique, il y a beaucoup de jeux, il y a même aussi, il faut le remarquer, des jeux en bois, des jeux de plateau, puisque les jeux vidéo prennent aussi souvent source dans justement les vrais jeux de société. Je redonne quand même donc 2-3 infos, c'est ouvert aujourd'hui et demain, donc aujourd'hui c'est scolaire, demain c'est ouvert à toutes et à tous, donc vous êtes vivement invité à venir. Les horaires, je crois que c'est 10h, midi et plus ou moins 14h, 16h. Il y a trois grands espaces qui ont été pensés thématiquement. L'espace Space Game, donc on est vraiment sur par exemple des casques connectés. Il y a pas mal de casques de réalité virtuelle. Il y a des petits robots pour faire de la robotique de manière ludique. Il y a des murs interactifs. Enfin voilà, pas mal de choses. Il y a une créa zone où là on est aussi sur le côté créatif plutôt de tout ça, et l'espace Labo 2.0 avec peut-être des dimensions un petit peu sur l'aspect métier, travail, les enjeux de société aussi, je l'ai dit, dont on va continuer à discuter pendant ce plateau. Plateau donc que nous faisons en direct, et nous sommes avec notre première invitée du jour, de cet après-midi, pardon, c'est Darine qui est venue, il a quitté ce qu'on appelle le village e-sport qui est juste derrière nous. Bonjour Darine.
Enchanté.
Et je laisse Héloïse, est toujours à mes côtés pour animer, co-animer ce plateau, son dernier plateau avec nous en stage sur les ondes de Radio Escapade. Je te laisse la parole.
Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce que c'est ? Parce que du coup, moi, j'y connais rien du tout.
Tu veux que je parle d'e-sport ?
Le stand, tout simplement.
Ah, alors le stand, c'est un stand rétro. En gros, c'est des vieilles consoles, des consoles qui existaient quand j'avais, qui sont sorties quand j'avais 2-3 ans. Donc, on va parler de entre 98 et 2002. Et en fait, le but, c'est de montrer un peu à cette jeune génération qui connaît surtout les dernières jeux, les casques réalité virtuelle, les dernières consoles qui sont assez avancées en technologie. En fait, ce que c'était au début, le jeu vidéo, même si c'est pas le réel début, parce que si on veut remonter sur le réel début, il faut encore remonter 20 ans en arrière, mais monter sur vraiment le début de la démocratisation du jeu vidéo.
Ok, voilà. Et du coup, il y a plusieurs ordinateurs, j'ai vu, et il y a quoi comme jeu dessus ? Il y en a beaucoup ?
Alors, il y a une PS1, une PlayStation 1, une PlayStation 2, une PlayStation 3, une Nintendo Switch pour faire un peu plus récent. Il y a aussi une GameCube. Les jeux qu'il y a, là, on va avoir Pro Soccer Evolution 2, c'est un jeu de football. C'est un peu c'était l'ancien concurrent de FIFA, qui est du coup FIFA totalement annihilé. On va avoir GoldenEye 007. Qui est un jeu assez légendaire. Il va avoir ensuite un jeu de course sur PlayStation 3, très peu connu, dont j'ai même plus le nom. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre ? Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch. Voilà, un jeu hyper populaire, surtout en compétition. Et je crois que j'ai plus ou moins bien fait le tour. Et Mario Sunshine aussi.
Et du coup, c'est en libre accès. Les enfants, ils peuvent venir voir.
Ouais, c'est en libre accès. Ouais. Et demain, on organise un tournoi sur le jeu Super Smash Bros. Ultimate. Donc pour faire simple, Super Smash Bros. Ultimate, c'est Mario qui fait la bagarre contre Pikachu. Pour faire vraiment le plus bête possible, on organise un petit tournoi qui est ouvert à tout le monde. Donc à pas hésiter de passer.
Okay. Ok. Et du coup, les enfants, ils se dirigent plus vers quoi? Vers les vieux, enfin les jeux plus anciens ou plus récents?
Alors, globalement, il y a plus de jeux anciens, donc ils vont automatiquement aller vers ça. Après, il y a toujours le stand Smash Bros Ultimate qui est occupé, évidemment.
Oui, bien sûr. Ok.
Oui, tu disais au début, tu as demandé l'e-sport justement. Parce qu'aujourd'hui, on a ce mot e-sport, donc le i c'est la e. Ouais. C'est électronique sport, c'est les sports électroniques.
Alors,
nous, comme moi, quand j'étais jeune, effectivement, on disait juste jouer aux jeux vidéo.
Ouais.
Et là, maintenant, c'est un sport. Et d'ailleurs, toi, tu fais partie du MUC, tu me disais, donc le Montpellier Université Club.
C'est ça.
Donc un club de sport de l'université. Et donc maintenant, le jeu vidéo est complètement inclus dedans.
Ouais, en fait, le mot sport, il a une dimension au-delà de ce que est la pratique derrière. Aujourd'hui, enfin, de manière globale, depuis tous les temps, quand on parle de sport, on parle d'activité physique. Sauf qu'en fait, le côté sport dans l'activité physique, parce qu'on peut faire du sport sans un esprit sportif. Faire de la musculation pour s'entretenir, c'est faire du sport sans un esprit sportif. Mais en fait, la dimension du sport qu'on aborde, nous, à travers l'e-sport, c'est tout ce qui est côté valeur et ambition. L'entraînement, l'acharnement,
l'esprit d'équipe.
Comment on appelle ça, l'humilité, toutes ces valeurs-là qu'on retrouve dans le sport traditionnel, on les retrouve dans l'e-sport, et c'est tout cet aspect compétition, performance, dépassement de soi, toutes ces valeurs-là qu'on retrouve dans le sport, qu'on vient transcrire dans l'e-sport. Et c'est pour ça qu'on appelle ça de l'e-sport. Sinon, on dit compétition de jeux vidéo, mais ça s'est globalisé en e-sport.
Oui, et puis avec aussi tout ce qu'il y a derrière, le côté la célébrité, des grands événements mondiaux, maintenant je sais.
Ouais,
enfin, ça a effectivement des shows. C'est aussi que. Je pense que le monde fonctionne comme ça et qu'on a aussi envie de mettre en spectacle. Et donc, c'est à maintenant, effectivement, les grandes compétitions d'e-sport rivalisent aussi bien en audience qu'en termes de célébrité. Alors, avec certains sports.
Avec certains sports, ouais, on est encore très très loin du football. Mais par contre, j'aime bien, pour donner un peu aux gens une idée des champs de métiers qu'il y a dans l'e-sport, comparer ça au foot. Parce qu'aujourd'hui, tu prends le football. Tu prends tous les métiers qu'il y a autour, en parlant du club de sport, à les sponsors, à les médias, à l'événementiel. Parce qu'un stade de foot, quand il y a un match, c'est quand même 200 personnes qui travaillent. Et tu prends tout ça et tu enlèves le foot. Et je sais pas, tu mets League of Legends, qui est un jeu sur ordinateur. Et ben c'est tous les mêmes métiers. On garde absolument tous les mêmes métiers. Dans le côté club, on va retrouver un coach sur le jeu, on va retrouver un coach sportif pour la préparation physique, on va retrouver des psychologues et de la préparation mentale, donc on va retrouver des nutritionnistes. Ensuite, sur les médias, on va retrouver des journalistes, on va retrouver des commentateurs de match. On a toujours deux commentateurs, on reste sur un format qui ressemble à celui du foot, et on va retrouver du coup toutes les personnes dans la technique qui vont s'occuper du son, de la vidéo. Donc en fait, tous les métiers qu'on retrouve dans l'e-sport, on les retrouve dans l'e-sport.
Toi, c'est quoi ton domaine de prédilection, ton jeu, si je peux te demander?
Alors, j'ai eu des étapes. Quand j'étais plus petit, 14, 15, 16, j'étais sur Counter-Strike. Après, je suis parti sur Super Smash Bros Ultimate. C'est là où j'ai commencé à devenir professionnel, mais pas en tant que joueur. Moi, c'était vraiment de l'organisation. Et on va dire que sur ces trois dernières années, je pense que ça vient aussi un peu de mon amour que j'ai développé pour la Corée, mais League of Legends, qui est sûrement le jeu auquel je joue le plus et surtout sur lequel je développe mes projets au sein du MUC le plus.
Okay. Alors concrètement, là, le MUC à Montpellier, donc c'est donc une section de ce club universitaire où les adhérents viennent pour pratiquer donc de l'e-sport.
C'est ça.
Chacun son jeu un peu. Vous avez une équipe sur un. Vous êtes focalisé sur un jeu. Comment
en fait,
ça fonctionne?
On a trois grands phares dans ce projet-là. On a pour passer le premier rapidement, on a de la formation autour de l'e-sport. En gros, on fait de la formation sur gestion de projet, communication, marketing et événementiel, et aussi animation de public et pédagogie sur l'e-sport. Donc voilà. Maintenant, on met ça rapidement de côté pour parvenir à ce qui m'intéresse le plus. On organise des LAN. Les LAN, c'est les tournois en local, donc dans une même salle. Tous les jeudis soirs, on a un tournoi de Super Smash Bros Ultimate qu'on organise. Et les gens payent 15€ à l'année, ils peuvent venir tous les jeudis soirs. Voilà. Qui est diffusé sur Twitch. Et on organise tous les 3 mois aussi une grosse LAN avec plus de 150 joueurs. Avec du coup différents jeux comme Super Smash Bros, Teamfight Tactics, TwixKO qui est un nouveau jeu de combat. On va aussi avoir des jeux de cartes, tout ce qui va être Yu-Gi-Oh, Pokémon, etc. qui viennent s'inclure, parce que c'est comme un peu les échecs sont rangés dans la catégorie e-sport, sport. Bah pareil, les jeux de cartes sont rangés dans cette catégorie là aujourd'hui. On a des clubs de joueurs. On a deux équipes sur League of Legends, une équipe sur Valorant, une équipe sur Rocket League. Et en fait, ils ont un coach sportif, un coach du jeu, un préparateur mental. Et en fait, tout ça, c'est à l'adhésion, c'est des amateurs. Et en fait, notre objectif à travers ces clubs-là, c'est de proposer à des joueurs amateurs, donc qui n'ont pas le niveau professionnel pour connaître l'écosystème professionnel, une expérience qui ressemble le plus à celle des professionnels, pour une licence à l'année, qui s'approche d'un club de sport classique, donc 250 euros.
C'est marrant tout ce que tu dis. Peut-être les gens qui nous écoutent sont complètement à des milliers de kilomètres de connaître tout ce domaine. Et ça vient, je pense, pas mal en contradiction avec cette image qu'on a d'une génération connectée, ultra connectée, mais du coup isolée.
Et, ouais,
et
non,
là, tu décris des événements collectifs, des équipes, même un environnement professionnel. Et donc, comme quoi, c'est pas forcément. Enfin, ces deux mondes-là sont pas forcément.
Moi, le jeu vidéo, et notamment Super Smash Bros, où on organise des tournois, c'est le jeu qui m'a fait le plus sociabiliser et découvrir le plus de monde. Parce que déjà, il y a des tournois, plusieurs tournois par semaine par ville, où des gens se réunissent. Juste sur Montpellier, on a le lundi, le jeudi et le vendredi soir, où on a plus d'une centaine de personnes à chaque fois qui se réunissent pour jouer. Donc c'est non seulement des moments où ils jouent, mais aussi des moments où ils sociabilisent, où on va boire un coup ensemble, où on rentre peut-être ensemble parce qu'on habite à côté, je te ramène en voiture, ou alors on fait le trajet à pied ensemble. Et puis ensuite, à force de jouer dans ta ville et de t'entraîner et devenir meilleur, t'as envie d'aller voir les autres villes. Donc hop, on organise une escapade de Montpellier 1 qui vont à Lyon et faire un gros tournoi, on y va à 10, deux voitures, et hop, on va rencontrer les autres. Et il y avait aussi les Strasbourgeois qui ont décidé de le faire, et les Parisiens. Et tout le monde se réunit. Et en fait, on se rend compte rapidement que ouais, faire de la compétition, même à niveau amateur ou pour le plaisir, dans l'e-sport, ça nous permet de rencontrer plein de gens et de sortir de chez soi. Après, ça, c'est un jeu console. Les jeux ordinateurs, c'est vrai qu'ils ont tendance à plus faire en sorte qu'on reste à la maison. Pourquoi ? Parce que c'est plus dur d'organiser des tournois sur ordinateur que sur une Nintendo Switch.
Pour déplacer le matériel.
Exactement.
Les gens restent discutent. Bon, il y a le casque et le micro, donc il y a quand même une communication qui se fait entre joueurs par équipe, mais effectivement plus chacun chez soi dans ces cas-là.
Chacun chez soi, et il y a des événements, il y a des tournois, mais c'est plus rare parce que c'est plus coûteux à mettre en place. Ça demande plus d'investissement. Là, un déplacement les gens vont souvent déplacer leurs ordinateurs, etc. Et ça devient rapidement, logistiquement très compliqué à mettre en place. Ça existe, il y en a plusieurs dans l'année, il y en a facilement une dizaine minimum. Et après, les gens se réunissent pour autre chose. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez la Garmin Corp.
Là ?
Garmin Corp.
Non.
C'est un peu l'équipe de France. C'est un peu l'équipe de France de League of Legends. C'est un club qui est hyper populaire parce qu'il a été créé par Kameto. Kameto, qui est un influenceur Twitch. Et il y a des gens qui se réunissent dans des bars à Montpellier, à Lyon, à Saint-Etienne, à Paris, n'importe où, pour aller voir les matchs, comme un match de foot.
Il est question de performance finalement.
Performance.
Les gens dont on parle le e-sport, c'est que c'est à un certain niveau, là ça devient de l'art. Et effectivement, ils sortent du lot et ils sont vraiment très très forts dans ce domaine.
C'est ça, et les gens se réunissent dans les bars comme pour du foot pour aller voir ces matchs-là. Et ben, juste par exemple pour les qualifications aux Coupes du Monde, à Montpellier, il y avait 70 personnes pour aller voir le match. Le bar était blindé de gens qui adorent le jeu vidéo et qui étaient là juste pour regarder 10 gars qui se la mettent sur League of Legends. Donc ouais.
Fabien, avec nous.
Ouais. Du coup, tout à l'heure, tu évoquais les LAN que vous organisiez avec le MUC à Montpellier. C'est encore d'actualité, les LAN. Puisque moi, j'ai souvenir de mon lycée où j'avais effectivement des potes qui faisaient des soirées LAN, qui organisaient ça à plusieurs. Et aujourd'hui, ça reste d'actualité malgré un Internet performant où tout le monde peut rester chez soi. Il y a encore des moments qui créent du lien comme ça entre joueurs qui se rejoignent dans la même salle.
Bah, déjà, pour répondre à ta question, oui, mais je vais développer. Déjà, la définition de LAN, elle a beaucoup évolué dans le sens où avant, comme tu as dit, c'est des potes et tout qui se réunissaient chez eux et on considérait ça comme une LAN. Avant, on pouvait se réunir chacun à 5 dans un appart et jouer ensemble, on appelait ça une LAN. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que, comme tu as dit, Internet, c'est performant. Donc, on joue à 5 depuis chez soi. Par contre, les LAN à grande ampleur, ça existe encore aujourd'hui. Et pourquoi ça existe ? Déjà parce que Smash Bros, je disais, donc le jeu où vraiment il y a plein de tournois vraiment en France, sur une semaine, si on prend toute la France entière, je pense qu'on est facilement à 40-50 tournois sur une semaine, un peu partout en France. Et peut-être que je me trompe, peut-être que c'est plus. Pourquoi Smash Bros ? Parce que Smash Bros, il a ce problème d'Internet. Le mode online de Super Smash Bros, le mode en ligne, fonctionne très très mal. Donc les gens sont obligés de se réunir. Donc on retrouve ce symptôme-là. Et c'est pour ça aussi que les jeux comme League of Legends, Valorant, Rocket League, qui sont des jeux e-sport, vont avoir plus de difficultés à se mettre en LAN parce qu'en fait ça marche très bien depuis chez soi. Donc il y a moins de LAN de ces jeux-là. Et parce que en fait ça marche. Par contre, il y a aussi des bar gaming aujourd'hui, des PC café. Et des PC café avec des PC performants. Et on peut y aller à 5, à 10 dedans, louer les PC à l'heure. 3 euros, 4 euros, ça va dépendre, et jouer avec ses potes dans un PC café. l'intérêt, c'est même pas de se dire, bah, en fait, de chez moi, je peux pas jouer, j'ai pas internet, ou alors le jeu marche pas correctement. C'est en fait juste de se réunir, parce qu'il y a toujours, c'est ce qu'on appelle le bonus LAN. En fait, jouer avec ses potes dans une même salle, ça nous fait sentir plus fort.
Voilà. Comme quoi, l'expérience humaine reste malgré tout quelque chose qui est valorisé, même dans les communautés les plus connectées et les plus reliées.
Exactement. C'est, bah, et surtout que c'est un peu le. Ça crée un peu un fantasme du fait que. On est tout le temps en ligne, on se voit jamais. Et là, c'est l'occasion de se voir et de jouer ensemble. Et on est à côté. Et donc, il y a un peu ce fantasme qui se crée. Et du coup, ça crée ce moment spécial quand on se réunit. Parce que ben, ça reste très ponctuel et très unique.
On va revenir un petit peu là, sur cette journée. Donc là, vous avez installé à plusieurs donc, ces vieilles consoles. C'est quoi le but, hormis la pédagogie envers les jeunes dont tu parlais ? Et je fais la suite de la question, c'est qu'à 17h30, toi et le camarade dont j'ai oublié le nom...
C'est Mathis.
Mathis, vous allez animer donc, cette conférence qui a lieu donc, à 17h30 au collège Louise Michel, qui est ouverte à tous et toutes, hein, je ne sais pas que pour les collégiens du tout, qui s'appelle « Les bonnes pratiques ».
Exactement.
Voilà, donc ça reste très large. Qu'est-ce que vous cherchez à véhiculer ? De quoi on parle, par exemple ?
Alors, la conférence, elle part d'un constat de base. Le constat de départ, c'est que le numérique aujourd'hui, c'est omniprésent. Que ça soit pour, c'est omniprésent et c'est surtout indispensable aussi pour la communication, pour tout ce qui va être apprendre, divertir, etc. Donc nous, on part de ce constat-là et on va essayer de trouver les opportunités et les l'opposé d'opportunités, ça va être
les inconvénients
voilà, du fait que ça soit omniprésent et indispensable aujourd'hui. Et aussi trouver des solutions à ces inconvénients qu'on peut retrouver, parce que le numérique, comme n'importe quel outil, enfin les outils numériques en général, c'est des mines d'or. En réalité, quand c'est bien utilisé, c'est des puits sans fond de connaissances, c'est des puits sans fond d'apprentissage, de pédagogie, etc. Par contre, c'est vrai que dès qu'on est dans l'abus sur certaines choses et qu'on perd le contrôle, ça peut devenir de l'addiction, ça peut devenir des problèmes de santé, de la sédentarité. Et en fait, tout est poison, rien n'est poison. C'est une question de quantité, une question de dosage. Et nous, on va essayer de pas diaboliser, ni idéaliser, mais vraiment expliquer qu'est-ce que c'est dans le concret et comment faire pour bien utiliser ces outils-là.
Vous avez souvent, justement, face à vous, peut-être, j'imagine, là, on va dans un collège, j'imagine qu'il y aura des parents. C'est souvent ce genre de public avec qui, parce qu'il y a aussi une barrière de génération, effectivement, là, ça a été très, très vite ces 30 dernières années. Est-ce que c'est souvent ce genre de crainte face auxquelles vous venez un petit peu rassurer ou en tout cas donner des clés pour peut-être des fois débloquer des situations ?
Franchement, en général, les parents, une fois qu'on commence à leur expliquer, ils sont rapidement très ouverts et comprennent et ça se passe plutôt bien. Les seules choses dont j'ai peur, entre guillemets, quand je fais face à ce genre de public, c'est les personnes qui vont rester à camper sur l'idée que le mot sport dans e-sport, il ne devrait pas être utilisé. En fait, même quand je leur donne l'explication, ils vont camper sur le côté physique de la. Oui, mais le sport, c'est physique, etc. Et après, quand je leur explique, ils te donnent l'air pas convaincu.
Et c'est les profs de PS, ça.
Ouais, et encore, les profs de PS, c'est pas sûr. Hein. Moi, j'en ai eu des profs de VS qui étaient rapidement convaincus. Non, mais il y a juste des personnes ouais, qui.
Oui.
Mais c'est ma seule crainte, franchement, sur le reste du numérique, vu que c'est de l'éducation, vu que c'est de la pédagogie, vu qu'on vient vraiment montrer. Ben oui, on est d'accord avec vous, hein, mesdames et messieurs, 8 heures sur un écran, c'est très mauvais. Alors, comment on fait pour régler ça ? Et là, en fait, on va dans leur sens. On va dans le sens des parents quand on arrive en conférence. Ouais. On va dans leur sens. Oui, il y a des problèmes. Maintenant, on va essayer de trouver des solutions à ces problèmes-là.
Et dans votre communauté, plutôt par exemple dans le cadre sportif du MUC, etc., c'est des questions dont on discute. C'est des questions, par exemple, d'addiction, même de santé, de lié à la posture, par exemple, parce que on sait que c'est quelque chose qui, comme tout sport, est assis, par exemple, il faut. C'est des choses qui sont discutées. Il y a de la prévention aussi qui se fait à ces niveaux-là.
Oui, bien sûr. Ça va être tout ce qui est troubles musculo-squelettiques qui peuvent subvenir, surtout si on a une très mauvaise position sur l'ordinateur. Je veux dire. Personnellement, quand j'étais très petit, j'avais pas forcément d'encadrement. Aujourd'hui, j'en suis ressorti avec 2 canals carpiens sur chacun de mes poignets. Par contre, il y a des bonnes pratiques à faire pour pas avoir tout ça, surtout quand on joue beaucoup. Tous ces troubles-là de la posture, etc., les gens vont se rendre compte rapidement que c'est pas forcément le jeu vidéo, mais c'est la sédentarité. Quelqu'un qui passe 10 heures au travail sur un bureau et qui se lève pas, il va avoir les mêmes problèmes qu'un gars qui joue toute la journée à son ordinateur.
Il y aura peut-être même une souris d'ailleurs mieux fichue et un meilleur siège.
C'est ça. Donc il y a une grande chance que la personne ait un meilleur siège, une meilleure souris et de meilleurs périphériques. Alors quand quelqu'un, un employé de bureau, va juste ressortir avec le dos cassé et des douleurs qui vont se développer. Donc en fait, ce problème-là, il est au-delà de l'identité du jeu vidéo et même du jeu vidéo. C'est vraiment la sédentarité due au fait qu'on travaille sur des ordinateurs et qu'on travaille devant un écran et qu'on bouge pas. Et donc nous, bien sûr, il y a de la prévention sur ça. Notamment, je peux donner des exemples, mais par exemple le fait qu'on encourage, que ce soit pour les gens qui travaillent en bureau ou alors des gens qui jouent aux jeux vidéo, à prendre une pause de 5 minutes pour se lever, juste marcher, faire autre chose. Pour les gens qui jouent aux jeux vidéo, par exemple, de boire un verre d'eau entre chaque partie, c'est important, ça va très vite un verre d'eau, hein, ça se dégomme très rapidement. Boire un verre d'eau, c'est ce genre d'astuces-là qui sont petites, mais qui, une fois quand deviennent des habitudes, changent complètement la vie et rallongent votre espérance de vie.
Et puis en fait, rien que le fait de penser à se lever, boire un verre d'eau, c'est aussi penser tout d'un coup à soi.
Exactement.
Quelque part, c'est ne pas se laisser complètement...
Et pas s'oublier,
Ne pas s'oublier dans le jeu. Merci beaucoup, Darin. Il y a plein de choses passionnantes, mais j'imagine qu'ils vont encore être développées dans la conférence qui aura lieu ce soir à 17h30. Mmh. On a déjà eu un petit avant-goût. Merci à vous, bon après-midi, le stand du MUC. Et puis on se retrouve.
C'est le centre de Village eSport.
C'est Village eSport, pardon. Ouais.
Je veux pas voler mon collègue.
On a oublié de préciser d'ailleurs Village eSport. On a même pas parlé. Est-ce que tu peux rapidement nous expliquer ce que c'est ?
Alors Village eSport, c'est une structure qui est tenue par Tony Elinck. Tony Elinck qui a l'habitude de travailler avec par exemple sur Gange, parce qu'on a fait des interventions avec lui dans les collèges et les lycées pour faire de l'initiation aux jeux vidéo pour développer les compétences transversales. Il intervient sur plein de champs différents, mais le champ qui va beaucoup nous intéresser ici, ça va être le côté éducation. En fait, Tony, son objectif, c'est de montrer qu'avec le jeu vidéo, il y a l'opportunité de développer des compétences transversales à travers une mise en place pédagogique. Donc voilà, c'est le but aujourd'hui de Village eSport, en tout cas comme il est présenté à travers les actions qu'il y a sur Gange, sur Béziers et en fait sur l'Hérault en général.
Merci beaucoup
pour
toutes ces informations. On s'écoute un petit peu de musique avant de passer à la suite de ce plateau. A tout de suite.
Frecuencia. Peligrosa.
Baja Frecuencia et quelques petites sonorités électroniques pour nous accompagner sur cette journée, le festival numérique des Cévennes connectés, la première journée, puisque ça continue demain aussi à Ganges. Nous sommes à la salle des fêtes qui est aujourd'hui ouverte aux scolaires. Demain, les horaires donc ouvertes à tout le monde, ça sera de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Il y a 3 espaces thématiques, 32 ateliers, 19 partenaires. Ça a été mis en place, on le disait ce matin, pas mal dans le cadre du TNE 34, donc au niveau de l'Hérault, mise en place évidemment avec la communauté des communes Cévennes gangeoises suménoises, le centre social Lagantique et tous les partenaires locaux. Et pour terminer sur les petites infos pratiques, je vous redonne donc les horaires de la conférence dont nous avons parlé il y a quelques minutes. Ça sera donc à 17h30 jusqu'à environ 19h au collège Louise Michel autour des bonnes pratiques. Donc avec Tony Elinck de eSport Village et vous l'avez entendu, Darine pour le MUC, le Montpellier Université Club, la section eSport. Et ce soir à la médiathèque Lucie Aubrac, à 19h, vous êtes invité à une soirée jeux vidéo dont le thème est Overcooked et je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Voilà, vous savez tous, à 19h, c'est gratuit, en accès libre, n'hésitez pas. Et puis si vous avez le temps demain, bah, venez essayer les nombreuses activités qui sont proposées ici dans la salle des fêtes de Ganges, pardon. Voilà. Nous avons été rejoints autour du studio radio, de la bonne vieille radio, par Stéphanie Lacoste, qui est directrice de l'atelier Canopée pour l'Hérault. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes venu avec aussi plusieurs tables ici. Hein, une petite partie de l'espace est prise en charge par Canopée. Des activités là aujourd'hui en direction des enfants. Est-ce qu'on peut déjà, ce qu'on peut vous demander d'essayer de nous faire un résumé sur Canopée ?
Alors oui, tout à fait. Donc Réseau Canopée est un opérateur de l'éducation du ministère de l'Éducation nationale, donc et sous tutelle de ce ministère-là. Et donc nous, notre mission, c'est la formation tout au long de la vie des enseignants et de toute la communauté éducative. Et donc Réseau Canopée, dans le cadre du dispositif territoire numérique éducatif, dont fait partie le département de l'Hérault, a été missionné par l'État sur deux des volets, puisqu'il y a 4 volets des territoires numériques éducatifs. Je pourrais vous les rappeler si cela vous intéresse. Donc, nous, on a été missionnés sur les volets formation et ressources pour les enseignants. Donc, alors aujourd'hui, évidemment, cette journée s'adresse plutôt au public scolaire. Donc, dans le cadre des TNE, on va un petit peu au-delà de cette mission-là. Mais donc là, les collègues qui sont là aujourd'hui on a 3 ateliers qui sont proposés donc par les collègues. Un atelier sur la robotique, sur la programmation et la robotique avec les robots Timio. On a la collègue qui est en face et on voit les enfants qui sont assez investis sur le sujet. Et puis derrière nous, donc on a 2 collègues. Alors une autre collègue qui travaille également sur la programmation, ce qu'on appelle des cartes microbit. Donc ce sont des petites cartes, alors qu'on peut voir en cours de technologie particulièrement, et qui sont, on va dire, des outils qui sont utilisés dans ce qu'on appelle les Fab Labs pédagogiques. Alors les Fab Labs pédagogiques, qu'est-ce que c'est ? Ce sont, en fait, c'est une culture de la pédagogie par l'erreur, par le faire. C'est-à-dire qu'on essaie de faire prendre conscience aux enseignants et aux élèves, en fait, que plus on va essayer, plus on va chercher et plus on va se tromper, on va essayer, on va trouver son erreur et plus on apprend.
Une démarche empirique un peu.
Tout à fait, mais une démarche qui fonctionne et puis une démarche aussi qui permet d'aller sur d'autres champs, notamment l'école pour tous ou école inclusive. Travailler sur des sujets comme l'égalité filles-garçons, par exemple, qui sont au cœur en tout cas de nos. Des sujets qui nous occupent tous dans l'éducation aujourd'hui, l'intelligence artificielle, etc. Voilà. Et
c'est les
cartes microbit. Donc on voit, ce sont des petites cartes qui affichent des petits programmes qu'on leur dicte. On pourrait parler de, vous connaissez les développeurs par exemple qui développent des sites web en programmant en fait du code. Donc là, c'est la même démarche, sauf qu'elle est simplifiée. On a vraiment des choses qui sont pré-codées et ça leur permet de voir...
De prendre la logique de
la programmation. Ouais. Et mon collègue, mon dernier collègue présent, donc lui est sur ce qu'on appelle un dictionnaire visuel, Leximage, qui est un outil qui permet d'associer une image à un mot. Voilà, donc un atelier plus visuel. Ouais. et tout aussi ludique par rapport à la tranche d'âge qui nous occupe aujourd'hui.
Ouais. Voilà. Et alors, toutes ces technologies, ces innovations qui viennent nourrir du coup le travail de Canopé, elles sortent d'où ? C'est comme moi, j'aimerais bien comprendre éventuellement le processus qui amène à ce qu'aujourd'hui, il y a un atelier Microbit, par exemple. À quel moment, j'imagine que ça se fait au niveau national, mais comment est-ce qu'on décide et on met en place justement toute la pédagogie, tous les outils qui vont avec, par exemple, là, la robotique qui a été ciblée, etc.
Alors, donc nous... Comme je le disais tout à l'heure, on dépend du ministère de l'Éducation nationale, on est un opérateur. Et donc, évidemment, notre rôle, c'est d'accompagner, on va dire, et de mettre en œuvre, aux côtés des académies et des DSDEN, je ne sais pas si, si ça vous parle, de mettre en œuvre les programmes. Hein, voilà, les programmes d'enseignement et les plans de formation des enseignants. Donc, nous, notre mission, c'est la formation des enseignants. Donc, évidemment, on a un certain nombre d'axes de sujets qui nous occupent, nous en tant qu'opérateurs, sur lesquels on a des spécificités, tout ce qui est culture du numérique, avec les DRAN, on avait des collègues de la DRAN qui étaient présents ce matin, avec qui on travaille sur le dispositif territoire numérique éducatif, hein, puisque ce sont eux les pilotes localement sur le département de l'Hérault, aux côtés de la DSDEN de l'Hérault. Et nous sommes l'opérateur qui intervient auprès des enseignants pour les former sur les sujets du territoire numérique éducatif. Donc on a un certain nombre de sujets qui vont de la programmation, voilà, puisque c'est un des axes forts du TNE. On va avoir l'école inclusive ou l'école pour tous, que vous connaissez sûrement. On va avoir l'intelligence artificielle et tout ce qui va traiter des données, les data, ce qu'on appelle plus communément les data. Data center, etc. On va avoir des sujets comme les Fab Labs, on en a parlé précédemment. On va avoir des sujets plus ouverts tels que, par exemple, ce qu'on appelle les pédagogies actives, dans lesquelles on va retrouver un certain nombre de thématiques. Ouais. Alors, des outils numériques et pas que, plutôt des méthodologies pédagogiques. On va parler de classes inversées, par exemple. On va parler de classes flexibles. On est sur des nouvelles méthodologies d'enseignement qui ont trait au numérique, mais pas que. On va avoir tout ce qui concerne la pensée visuelle. Je ne sais pas si ça vous parle, mais ce qui permet de transposer par écrit, par exemple, une idée, qu'elle soit sous forme d'image ou de texte. On parle de sketchnoting. On va avoir tout un tas d'axes, notamment PIX plus Edu, qui est un sujet qui occupe les enseignants aujourd'hui et les élèves.
Et donc, concrètement, vous mettez en place des temps de formation pour les enseignants sur quelques journées, des semaines comme ça, ou alors vous allez dans les établissements ?
Plus que quelques journées, donc on réfléchit, on travaille avec l'Académie, avec la DRAN Occitanie et la DSDEN de l'Hérault sur les plans de formation qui sont proposés sur l'année scolaire aux enseignants du département, puisque notre mission cible le département. Et donc on est sur, on va dire, en tout cas pour ce qui concerne Réseau Canopé, sur le département de l'Hérault, environ à 60 formations sur l'année. Voilà, ce qui est relativement élevé, on va dire, sur un territoire comme l'Hérault.
Et la réception de toutes ces nouveautés, parce qu'en plus, c'est le propre de tout ce secteur numérique, c'est qu'il évolue très, très vite. Là, vous évoquiez l'intelligence artificielle. Je me dis que peut-être il y a 5 ans, il n'en était pas encore question, je ne sais pas. Déjà, c'est dur, j'imagine, de suivre, mais ça, c'est un peu le boulot, justement, des gens, je pense, qui mettent en place les programmes. Au niveau des professeurs, comment ça se passe, la réception de ces nouvelles choses ? Parce que ça peut être vécu des fois comme, pas une contrainte, mais en tout cas des demandes d'adaptation un peu régulières, sachant que des fois, ce qu'on a appris est presque obsolète 4 ans plus tard. Enfin, pas complètement, mais les technologies évoluent tellement vite.
Oui, alors sur l'intelligence artificielle, il est évident. Alors, c'est pas du tout nouveau, l'intelligence artificielle.
Hein, non,
c'est...
mais le fait que ça soit démocratisé...
Mais en tout cas, la démocratisation et l'ouverture, effectivement, au grand public, effectivement, de ces technologies, effectivement, a révolutionné, a changé beaucoup de choses, en tout cas dans l'éducation, ce qui nous a contraint tout un chacun, tous les acteurs de l'éducation, à effectivement proposer des outils pour armer les enseignants aujourd'hui face à, ben voilà, à tout ce qu'ils rencontrent dans la classe déjà, hein, je veux dire, depuis plusieurs années. On va pas citer les outils les plus connus voilà, sur le sujet, mais effectivement, il y a une remise en question permanente, en tout cas des ressources pour la formation. Nous, donc, Réseau Canopé travaille en réseau national, ce qui fait que en fait, on travaille nationalement sur les outils de formation. Il y a des groupes de travail nationaux qui proposent tous ces axes-là et toutes ces nouvelles approches. Donc, en fait, c'est vraiment une remise en question permanente de l'offre de formation, un renouvellement permanent. Ouais.
Et il y a du coup, j'imagine aussi, là, un mouvement de faire remonter, vu que ça va tellement vite, remonter directement du terrain aussi pour adapter au fur et à mesure.
Tout à fait. Alors, la particularité de l'opérateur, c'est que historiquement, donc, nous, on avait une mission d'édition que nous avons toujours, hein, puisqu'on produit, on produit essentiellement aujourd'hui des ressources pour la formation en ligne des enseignants sur des plateformes de micro-learning, ce qu'on appelle de micro-learning, telles que Magistère, qui est une plateforme de formation des enseignants, INSPE, qui, pareil, est une plateforme de formation pour les nouveaux enseignants, etc., différentes plateformes développées par Réseau Canopé. Donc on est aujourd'hui, à la demande du ministère, en capacité de produire régulièrement et de renouveler des ressources qui servent aujourd'hui dans la classe. Voilà. Et pour en revenir au dispositif territoire numérique éducatif, puisque c'est ce qui nous occupe aujourd'hui, sur le territoire de Ganges et sur cet événement qui nous est proposé par la communauté de communes. Donc en fait, on a une plateforme nationale, nous, qui est proposée par Réseau Canopé et qui offre justement ces parcours en ligne et qui sont renouvelés régulièrement. On a également un marché de solutions numériques qui a été proposé gratuitement à tous les enseignants de l'Hérault. Donc, et dans ces ressources, on va retrouver des EdTech avec lesquels on travaille régulièrement, qui travaillent sur ces sujets-là, sur l'IA notamment. Voilà, je pense à Vita Science pour le second degré, par exemple.
Et alors, peut-être une dernière question un peu plus large. Vous traitez donc de nouvelles technologies et de sujets finalement de société. Est-ce que ça fait partie aussi des missions et des choses que vous portez avec Canopé, bah, d'apporter aussi justement un enseignement de un peu de recul? On parlait par exemple de l'IA sur ses conséquences que ça peut avoir en termes d'apprentissage, de l'avenir, ou même environnementaux, hein, parce que le secteur numérique est quand même très gourmand en énergie. Du coup, j'imagine qu'à la fois expliquer aux élèves qu'il faut faire attention aux ressources, et de l'autre, voir une démultiplication des data centers, par exemple. Est-ce que c'est aussi des choses qui sont au cœur de vos transmissions?
Tout à fait. Alors, sur l'intelligence artificielle, on a plusieurs entrées. On va avoir l'IA et l'éthique, par exemple, qui va beaucoup
d'auteur.
Alors, oui, les droits d'auteur. Alors, ça, c'est plutôt l'entrée IA et data, en fait, où on va aller sur cette partie-là, la partie UMI, la partie responsable et, on va dire... Esprit critique du traitement de toutes ces données-là et de toute cette information-là. Donc on intervient aussi sur de la radio scolaire, hein. C'est vraiment un des sujets qu'on travaille régulièrement avec le CLEMI, qui est le centre de liaison pour l'éducation média et l'information, qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui aurait pu l'être, qu'il était sur le, on va dire, le grand frère ou la grande sœur de cet événement-là, puisqu'on a ce qu'on appelle le super-héros, qui est l'événement qu'on organise, la DRAN Occitanie, le CRIJ Occitanie et Réseau Canopé, tout au long de l'année, enfin depuis le lancement des TNE. Donc oui, l'esprit critique est vraiment au cœur, en tout cas, de nos préoccupations. On intervient beaucoup sur les valeurs de la République, la laïcité, l'égalité filles-garçons. Voilà, c'est des sujets, y compris l'EDD, hein. Enfin, voilà, on va sur des champs qui sont quand même relativement larges aujourd'hui et qui nous nous occupe et préoccupe tous.
Oui, vous êtes bien occupés, je pense, avec
oui,
tout
oui,
ça.
Oui,
ça fait beaucoup, oui. beaucoup dans l'assiette.
Mais on n'est pas seul, évidemment. Ouais. On travaille avec les académies sur ces sujets-là, ce qu'on appelle les écoles académiques de la formation continue, notamment. Voilà.
Bah écoutez, Stéphanie Lacoste, merci beaucoup d'être venue nous expliquer un petit peu ce qui se tramait dans l'atelier Canopée et toutes les grandes questions qui découlent de tous ces nouveaux petits gadgets qu'on a, ces nouveaux usages. Bonne fin de journée à vous.
Merci à vous. Au revoir.
Au revoir. Je propose qu'on se quitte en écoutant une interview que j'ai réalisée ce matin. On a été rencontrés le stand en face de nous, les parrains du numérique. Et voilà, j'ai pu m'entretenir avec un des animateurs. Je pense que ça va pas mal recroiser un petit peu, en plus, des choses dont on vient de discuter, dont on a parlé aussi précédemment, avec Darine dans le cadre du e-sport. Voilà, je vous laisse écouter ça et puis on se retrouve d'ici une dizaine de minutes pour la fin de cette émission.
Alors, les parrains du numérique, c'est une association 1900 qui existe depuis 2020. Après le Covid, on s'est rendu compte que en ligne, il y avait des adultes et des très jeunes qui se mélangeaient dans les jeux vidéo, notamment dans des jeux de guerre où on n'est pas supposé rencontrer des moins de 15. L'idée est venue de sensibiliser et les jeunes et les parents du coup, à ces interactions, à ce que ça a de positif et de négatif. Et de là, on est venu sur la sensibilisation au temps d'écran, et sur la capacité qu'ont les jeunes à développer des talents en ligne dont les parents n'ont des fois aucun soupçon.
C'est ça. Vous êtes basé où ?
On est basé à Montpellier. On travaille sur tous les RO et ailleurs parfois. On a co-organisé un tournoi à Nice là très récemment. On a fait des conférences à Lyon. Notamment sur l'intelligence artificielle ou sur l'accueil de mineurs dans le numérique. Et on fait aussi de l'accompagnement de structures associatives en ligne quand ils cherchent à poser leur statut, à développer leurs compétences et à faire en sorte que ça fonctionne entre des adultes et des mineurs sur les réseaux sociaux.
Okay. C'est vraiment parti de gens qui pratiquaient les jeux en ligne. Et vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un souci, qu'il y avait quelque chose à faire, quoi.
On s'est rendu compte qu'il y avait un manque d'infrastructure. Y a des clubs de sport, mais il n'y a pas les clubs e-sport ne sont pas maintenus par des adultes. Les clubs de sport sont maintenus par des coachs. Il y a des filières. En 2020, c'était le cas. Maintenant, il commence à y avoir des filières pro dans l'e-sport. Animateur e-sport, ça devient quelque chose pour lequel on peut avoir une formation. Mais il y avait un manque d'infrastructures et c'est en train de venir. Voilà. Donc nous, on est sur la promotion justement de ces infrastructures et comment on fait pour les développer et rassurer les parents sur le fait que on peut développer les compétences des jeunes sur Internet.
Oui, parce que j'imagine qu'il y a à la fois le côté volé, les jeunes, leur expliquer un peu comment ça se passe, mais effectivement, tous les adultes qui ne sont pas forcément au fait de ce qui se passe dans ce monde, derrière l'écran, dans la chambre.
Oui, le fait que les jeunes sont dans leur temps de divertissement, donc il y a la question de l'intimité, mais quelque part, il y a aussi le fait que les parents ne sont pas rassurés. Et donc des fois, on a besoin de rassurer les parents parce que très souvent, les jeunes sont en train de développer des compétences incroyables dans leur chambre. On a des parents qui sont venus nous voir en nous disant « Oui, mais mon jeune, il passe 6 heures tous les soirs devant les écrans, on ne comprend pas. » Et en fait, il passe 5 heures à faire du montage vidéo pour sa chaîne TikTok. Donc il s'expose sur TikTok, il est jeune, c'est pas OK. Mais par contre, il fait du montage vidéo 5 heures par jour, la plupart des adultes ne sont pas capables de consacrer à une activité professionnelle dans leur temps libre. Quoi. Donc, donc en fait, ils apprennent des choses. Et donc, il faut faire la balance entre les deux. Et on parle du positif et du négatif. On parle de cybervigilance et de tous les points négatifs qu'il peut y avoir sur Internet, la rencontre de prédateurs, etc. Mais on parle aussi du développement des soft skills et du développement des skills tout court. parce que ben voilà, on arrive dans un monde qui est de plus en plus numérique et il y a des parents qui en sont totalement déconnectés, des parents qui sont un peu connectés mais qui comprennent pas nécessairement ce que font leurs enfants. Donc on fait le lien entre les deux.
Et alors là, par exemple, sur une journée comme ça, là aujourd'hui on a plutôt des scolaires qui vont venir, demain ça va être tout public. Mmh. Et là vous avez choisi d'amener un jeu de plateau, type Donjon Dringo, enfin un jeu vraiment pas numérique du tout, parce que ça fait aussi partie des choses que vous mettez en avant, la déconnexion.
Ouais, on met en avant la déconnexion et le fait de sortir du temps d'écran. On fait quand même le lien avec l'écran, parce que là, sur ce jeu de plateau, on leur explique comment on conçoit les règles. Donc on leur explique le game design, et on leur explique les différences en conception de jeu, jeu de plateau et jeu en ligne. On leur explique comment on construit un jeu sur Internet ou comment on construit un jeu sur ordinateur, tout en leur expliquant comment on construit des règles sur un jeu de plateau. Donc on leur fait construire un jeu, on leur fait construire les règles et on leur fait jouer à ce jeu-là. Sur un temps plus ou moins court. Là, on a 45 minutes. Des fois, on a 4 heures.
Ouais. Voilà. Et les enfants, ils réagissent comment à ce type de proposition, pour ceux qui n'ont peut-être jamais vu, parce qu'il y en a qui sont jeunes, là, qui n'ont peut-être jamais été confrontés à ces ancêtres des jeux vidéo, on va dire.
Ils réagissent plutôt bien parce qu'ils sont en train de jouer. En fait, la gamification, c'est un vrai sujet dans la pédagogie depuis un moment déjà. Et là, en fait, parce que c'est un jeu, on peut leur faire passer de la terminologie. On peut leur faire passer. Là, je suis en train de faire de la conception de cartes. En conception de jeu, ça s'appelle du level design. En fait, on peut leur faire passer des mots comme ça qu'ils vont réutiliser pendant la session. Et ils vont du coup comprendre les mots qui sont utilisés, la méthodologie, parce que c'est un jeu. Et donc le fait que ce soit dans un jeu, ça leur apporte de l'attention en fait.
Et sur l'autre activité là, que vous avez amenée sur l'autre table, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on peut trouver ?
C'est de la sensibilisation. Là on fait vraiment de la sensibilisation aux réseaux sociaux et aux jeux vidéo. On explique on a un quiz sur lequel on a des statistiques plus ou moins évidentes. On a un vrai faux. Quelle est la quantité de joueurs dans les 11-18 ans? Quelle est la quantité de joueurs dans les 30-50 ans? Et on va essayer montrer que en réalité, y a à peu près autant d'adultes que de jeunes qui jouent. Que le jeu, c'est pas quelque chose qui est fait pour les enfants. Que sur Internet, on peut développer des compétences. Et en même temps, on va leur expliquer que, sur Internet, il peut y avoir des dangers. Il y a de la prédation sur les réseaux. Voilà.
Et les jeunes, pardon, est-ce qu'ils sont déjà au fait de tout ça ?
La plupart sont au courant. Ils sont au courant des derniers messages qu'on cherche à leur envoyer. Le fait de se montrer par exemple sur les réseaux et les dangers du fait de se montrer, c'est des messages de sensibilisation qu'on a produits il y a 10 ans et qu'on produit de moins en moins. Aujourd'hui, tous les jeunes veulent devenir des Instagrammeurs, etc. et en fait ne font pas spécialement attention à leur vie privée. Alors que ça, c'était ce qu'on disait il y a 10 ans. Aujourd'hui, on leur dit pas faites attention à votre vie privée, on va plus leur dire attention, il y a des prédateurs sur Internet. Donc, ils sont sensibles aux derniers messages à la mode. Attention à l'intelligence artificielle, ce genre de choses.
Le harcèlement.
Mais y a des messages à répéter.
Merci, il y a des clients, je vous laisse jouer. Merci beaucoup.
Du coup, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Escapade et on est au Festival du Numérique à la salle des fêtes de Ganges. Le festival, du coup, je le rappelle, se déroule donc aujourd'hui, mais aussi demain. L'entrée est libre, vous pouvez venir y faire un tour pour voir les différents stands et différents ateliers.
Oui, Héloïse.
Voilà.
Les infos sont sur Internet, sont aussi sur le site de la communauté des communes. C'est à la salle des fêtes, mais aussi, je vous le disais, au collège Louise Michel à 17h30. Pour la conférence et une grande soirée jeu Overcooked à la médiathèque Lucie Aubrac. Voilà, on vous propose aussi la semaine prochaine, on a fait du son qu'on n'a pas passé dans l'émission d'aujourd'hui. Héloïse a fait reporter et donc on vous fera écouter aussi un petit peu sur les antennes et en podcast, et un petit peu ce qui se passe là dans tous les stands autour de nous, puisqu'il y a pas mal d'activités qui ont été proposées. Donc on aura aussi un petit retour la semaine prochaine là-dessus. Merci beaucoup Héloïse de nous avoir accompagnés sur ce plateau et pendant tout ce mois de stage et aussi au mois de juin à Radio Escapade. Bon retour à toi sur les bancs de l'école, connecté comme jamais. Hein.
Ouais.
Merci à Fabien en technique. Nous, on est connecté avec des câbles et du XLR et ça marche aussi, c'est pas mal. Et en radio FM, n'oubliez pas. Allez, à très vite sur les ondes de Radio Escapade. D'ici là, portez-vous bien.
Escapade
et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro.
L'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.